présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Parce que je vais à l'hôtel, je cherche du travail. Et quel genre de travail? Un travail de secrétariat. Je ne sais pas faire grand-chose, je n'ai pas de diplôme. Il lui dit, oui, ça ne doit pas être facile de trouver quelque chose. Oh que non, surtout que j'ai été malade. Ah, c'était grave? Non, une fatigue, mais maintenant cela va mieux. Il lui dit, je comprends, moi aussi j'étais malade. Et j'ai perdu ma fille. Je suis navré, monsieur. Il lui demande. Vous vivez seul? Oui, je n'ai pas de famille. Elle le retrouve, bel homme et gentil. Elle lui dit. Asseyez-vous si vous voulez. Il s'assoit. Il est de plus en plus troublé par sa fille et triste qu'elle ne le reconnaisse pas. Elle lui dit. Vous pouvez manger vos croissants si vous le désirez. Oui, bien sûr. Il en prend un. Après toutes ces années, se retrouver avec sa fille sans qu'elle le reconnaisse. Il lui demande, « Vous êtes de Paris ?» Elle lui répond, « Oui. » Et sans famille ?« Oui, sans famille. » Il lui dit, « Et que comptez-vous faire ?»« Chercher du travail et un logement. » Il lui dit, « J'aimerais vous aider. Je crois que je pourrais vous trouver du travail. » Je vais me renseigner. Surtout, ne craignez rien, c'est du sérieux. Comment pouvons-nous vous contacter? Je vais vous donner mon adresse. » Elle sort de son sac un calepin et un crayon. Elle écrit son adresse et son nom sur la feuille, la déchire et la lui donne. Il la regarde et lui dit, « Tiens, nous avons le même nom de famille. » Elle lui dit, « Oui, c'est étrange, mais sûrement qu'il y a beaucoup de ricains dans le monde. » Il lui dit, « Sûrement pas aussi charmante que vous. » Elle rougit parce qu'elle le trouve charmant. Lui est triste qu'il ne l'ait pas reconnu. Il en a les larmes aux yeux. Il aimerait la prendre dans ses bras. Elle se lève et lui dit, « Je vais vous laisser. » Il lui dit, « Déjà ?»« Oui, bien sûr. » Il se lève, « Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. » Et il la voit s'éloigner. Il se dit que c'est bien fait pour lui, qu'il a péché, mais il veut l'aider. Qu'elle ait du travail pour avoir une vie bien tranquille. Elle l'a bien mérité. Après avoir réfléchi, il va voir Danfort dans son bureau.
Entrez. Venez vous asseoir, monsieur Ricain.
Je connais une jeune fille bien sérieuse et qui cherche du travail de secrétariat. Danfort lui demande, « Quelle est cette jeune fille ?» Ricain lui dit, « C'est une de mes anciennes patientes. Elle a besoin de travailler. » Danfort lui demande, « Ce n'est pas une mutante. » « Non, une femme normale. » « Bien. Si tu veux absolument lui trouver du travail. » « Oui, parce qu'elle le mérite. » « Bien, tu lui dis de venir me voir et on lui trouve quelque chose à faire. C'est une débutante ?»«
Oui, presque. »«
Bien, donne-moi son nom. »
Ricain rougit. « Karine Ricain. »
L'enfant lui dit, « Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit avant que c'était ta fille ?»
Ricain lui dit, « C'est-à-dire que non. » »«
Je connais. » « Le nom de ta fille, et je l'ai vue plus d'une fois. »« Tu ne dois pas être gêné qu'elle veut travailler avec nous. »
Ricain lui dit, « C'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'elle a perdu la mémoire et elle ne sait plus que je suis son père. »
L'enfant lui dit, « Qu'est-ce que tu lui as fait ?»«
C'est pas moi. Et puis zut, elle était amoureuse de quelqu'un. » Elle a voulu l'oublier pour l'effacer de sa mémoire et je l'ai opéré sans le savoir.
Mais c'est impossible.
Si, parce qu'elle avait un masque et qu'elle avait la complicité de Galien. J'étais furieux d'ailleurs contre lui.
L'enfant lui demande, « Et qu'est-ce qu'il t'a dit ?»«
Qu'il le fallait, pour le bien de tous. »«
Il a sacrifié ta fille pour nous. Quel homme !» C'est bien l'élu.
Ricain lui dit, oui, malheureusement.
L'enfant lui dit, bien. Tu l'as fait venir, on la prend, on lui doit bien ça.
Ricain lui dit, merci, mais ne lui dis surtout pas que je suis son père, parce que ça pourrait la troubler.
Je te le promets.
Le lendemain, Ricain va à l'hôtel prévenir Karine. Il entre dans l'hôtel, qui est un petit hôtel modeste. Il va à l'accueil. Un gros homme à moustache, Ricain lui dit. « Bonjour, j'aimerais parler à mademoiselle Karine Ricain. »«
Chambre 22, premier étage. »«
Merci. » Et il y va prendre l'ascenseur.
Il sort de l'ascenseur au premier étage. Long couloir. Cherche la chambre 22. Enfin, il la trouve. Frappe à la porte. Entrez. Il entre. Elle est assise à une table à écrire. Il lui dit « Bonjour. Vous vous souvenez de moi ?»
Oui, bien sûr.
Bonjour. Il va vers elle. Il est tout ému de la revoir dans son intimité, dans une chambre minable et triste.
Il lui dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Elle se lève. Je vous ai trouvé du travail.
C'est vrai?
Elle se jette à son cou pour l'embrasser. Cela le gêne. Il lui dit,
vous devez vous présenter de suite à cette adresse et demander M. Danfort. Vous avez rendez-vous avec lui.
Il lui donne un papier avec l'adresse. Elle lui dit,
merci, je sais comment vous remercier.
En allant à l'adresse, elle lui dit, car elle le trouve très bon et très bel homme.
Nous reverrons, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr. Allez-y, je vous laisse.
Et il la quitte. En se disant qu'il ne la reverra plus, cela vaut mieux. Il lui a assez fait de mal.
Elle est allée chez Danfort, qui a été parfait. Il lui a donné un poste de secrétaire dans une de ses entreprises. Ricain, lui, se sent démoralisé et Vitali le fatigue. Un soir, qu'il l'a mis au restaurant, il lui dit « Je crois qu'il vaudrait mieux qu'on ne se revoie plus. » Elle lui dit « Depuis que ta fille t'a quitté, tu es impossible. Où est-elle celle-là » Il lui dit « Laisse-la, elle n'y est pour rien. Tu m'agaces. J'ai besoin de tranquillité. » Elle se lève furieuse et lui dit « Eh bien, ta tranquillité, tu vas la voir. » Et elle le quitte. Galien ne le regrette pas.
Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air en forme.
Alien, un soir dans la chambre de Guillaume, il lui demande « Est-ce que tu aimerais qu'on t'enlève ton homosexualité ?» Guillaume le regarde bien et lui dit « Non ? Pourquoi ? Tu ne me veux plus ? Tu veux te débarrasser de moi ?» Alien lui dit « Non, pas du tout, mais j'aimerais le savoir, parce que l'on fait des recherches là-dessus, et je me demandais si les homosexuels étaient intéressés pour ça. » Guillaume lui dit « En tout cas, pas moi, mais peut-être d'autres. Et comment feriez-vous » Alien lui répond « C'est à l'étude. » Guillaume lui dit « Et pour les hétérosexuels, vous faites aussi quelque chose ?» Non, pourquoi ? Alors pourquoi pour les homosexuels ? Pourquoi n'aurait-il pas le droit de l'être ? J'ai pas dit ça, mais simplement dit que s'il voulait changer, que bientôt, ça ne pourra se faire. Guillaume lui dit, et les hétéros, s'ils veulent changer ? Alien lui dit, ce sera peut-être possible pour eux, et de la même façon. Mais pour être quoi ? Eh bien homo ? Alien ne sait quoi dire. Le groupe Jeune Tout lance un nouveau produit pour les gouvernements et les sections spéciales. Ils mettent en vente des hommes, des femmes psychopathes. Ce sont des humains qui sont immunisés. Rien ne leur fait peur, ni ne les trouble. Ils ne pensent qu'à eux, au présent, à ce qu'ils ont à faire. Ils ont un but, pour y arriver, ils sont prêts à tout, même à tuer d'une façon ignoble, de sang-froid, des centaines de personnes. Le sens moral a été supprimé chez eux, on leur a touché une partie du cerveau qui a le sens moral et le remords. Après l'opération, si elle est réussie, on leur montre des photos de cadavres de psychopathes horribles. Ils ne doivent rien ressentir. Pour eux, le bien, le mal ne veut leur rien dire. Ils peuvent tuer de sang-froid sans rien ressentir. Car le sens du bien, du mal, de l'émotion se trouve dans le cerveau, dès la naissance. Bien entendu, l'éducation ajoute à ce sens. Mais si le cerveau ne l'a pas programmé, il ne peut comprendre et ne sentira pas d'émotion. Et sans émotion, il n'y a pas de morale. Des gens se font opérer du cerveau, beaucoup après l'opération, changent de caractère. Ils deviennent plus doux, plus sensibles ou plus violents, insensibles et instables. Ils n'ont plus peur de rien, alors qu'avant, oui. Parce que durant l'opération, malgré qu'on ait fait très attention, a été touchée la partie qui sert à la sensibilité dans le cerveau et au caractère des gens. Chose étrange, une personne qui est plus violente, insensible et aussi instable. Cela prouve peut-être que l'instabilité est une chose asociale. Une autre chose, les couleurs. On leur montre toutes les couleurs. Ils ne ressentent rien, sauf pour le bleu, où ils sentent comme un malaise, une gêne. Pourquoi ? Ce genre d'humains sont vendus très cher pour des missions paramilitaires ou autres suicidaires pour éliminer des personnalités. ne produit à beaucoup de succès, mieux que les mutants ou robots, car on peut dialoguer avec eux, et puis ce sont des gens qui se tiennent bien avant leur crime. Les jours passent. Une femme blonde, grande, mince, très belle, habillée d'un tabouret rouge, va dans son parking prendre sa voiture. C'est un parking souterrain, celui de son immeuble. Elle marche d'un bon pas rapide parce qu'elle est en retard pour aller à son déjeuner chez une amie. Arrivée vers sa Mercedes, Blanche sort de derrière un pilier un homme grand, fort, blond, très délicat. Il porte une gabardine marine, a dans les 25 ans. Il va vers elle. Elle va vers sa voiture.
Il va vers elle, d'un geste brusque, il la fait tomber à terre.
Mais...
Elle a à peine le temps de se relever qu'il est sur elle.
Mais qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi! Au secours! Au secours! Au secours!
Elle sent son corps appuyé sur elle. L'homme ne dit rien. Elle se dit, il va me violer. Elle est prête. Il sort en rasoir.
Oh!
Il lui passe la lame sur le visage. Elle est comme paralysée, n'ose plus bouger. Et d'un geste brusque, il lui tranche la gorge. Le sang gicle. Elle est morte, les yeux horrifiés, fixes. L'homme se soulève. Elle lui déchire avec son rasoir ses vêtements. Une fois que la poitrine est à nu, il lui coupe les seins. Il semble faire ça minutieusement, comme une chose normale. Tout à coup, il entend du bruit. C'est des pas. Il se relève, son manteau est taché de sang. Il a à la main le rasoir. Il se sauve en courant. Il entend derrière lui, « Oh mon Dieu! Quel carnage !» Il se met à courir. Il entend qu'on court derrière lui. Il se met à courir. Arrivé vers l'ascenseur, la porte n'est pas là. Vite, il monte les escaliers. S'engouffre dans le passage qui mène au sous-sol. Tout à coup, dans la figure qu'il a mis KO.
Ouais. Est-ce qu'elle a été...
Non, t'inquiète pas.
Il se réveille, menait au point, dans un fourgon. On l'a interrogé, il a parlé de son crime d'une façon froide, comme une chose normale. La femme tuée était la femme du ministre de l'Enseignement. Après enquête, on a découvert que c'est son mari qui a payé l'homme pour la tuer, pour une vulgaire histoire d'héritage. Quant au tueur, il a trouvé une facture comme quoi il provenait du groupe Genetou et qu'il était un humain programmé pour être vendu, pour faire des meurtres, des missions spéciales. Un psychopathe fait en laboratoire. Comme c'est la première fois qu'une chose pareille se produit, le dossier est présenté au ministre de la Justice. Un grand homme sec, en cheveux blancs, et dans son bureau, et dit au représentant des avocats, qui est un petit homme gros, chauve.
C'est le mari qui doit être condamné, et vous devez le condamner comme si c'était lui qui tenait l'arme. De toute façon, il a téléguidé l'homme, parce que l'homme qui a tué n'était qu'une machine à tuer. L'avocat lui demande, et le criminel? Le ministre lui dit, une personne à qui l'on a enlevé le sens moral du cerveau, qui n'a plus aucune sensibilité, puisque l'on lui a enlevé volontairement, et pour qu'il puisse tuer froidement et être efficace. On ne peut pas juger personne qui n'a pas le sens moral et qui ne le connaît pas culturellement. On l'a fabriqué pour être une machine à tuer. C'est comme si l'on jugeait le pistolet qui a tué.
Cette façon de voir fait jurisprudence et fait augmenter les ventes de psychopathes. En plus des États, il y a le privé qui en achète. Et oui, c'est bien pratique ces tueurs qui ne peuvent être jugés, et c'est bien très pratique. Mais il ne faut pas qu'ils se fassent prendre et que l'on découvre qui a financé la chose. Pour ne pas avoir de vraies traces d'un paiement ou autre, l'on fait du troc. On se fait faire une opération que l'on n'a pas eue, un ordinateur, etc. Au lieu de se faire faire une opération ou acheter un ordinateur, on se paye un psychopathe. Quant au groupe Genetou, il n'est pas ennuyé parce qu'il est considéré comme un fabricant d'armes. Le psychopathe est comme une mitraillette. Les entreprises qui fabriquent des armes ne sont pas responsables de ce que l'on en fait. Dans le cerveau, l'on trouve l'endroit qui donne l'excitation sexuelle. Lorsqu'il reçoit des images, sons, touchés qui lui conviennent, il se met en marche. Pour les homosexuels, on peut se connecter l'endroit et le former à avoir d'autres excitations pour devenir hétéro. On leur envoie des images, sons, touchés, hétéro, et à chaque fois, on leur envoie aussi des décharges électriques qui leur réveillent l'excitation. À force de recevoir ces images, sons, touchés et de sentir de l'excitation, le goût change et il devient hétéro. Le cerveau, le coin excitant sexuel, s'éduque et au bout d'un moment, il n'a plus besoin pour se mettre en marche, pour mettre en marche le sexe de décharge. Il le fait normalement dès qu'il voit, entend ce qu'il a appris. Ça lui donne du désir. On peut faire la même chose pour les PD et toutes les perversions de toutes sortes, surtout si la personne est un danger pour la société. On lui fait ce traitement. La société peut le demander ou la personne elle-même. Mais des hommes très riches, pour s'assouvir, achètent des mutants ou chimères avec qui ils peuvent s'amuser sexuellement. Des mutants enfants, femmes, hommes, animaux. Ils font une commande avec ce qu'ils souhaitent comme physique et ce qu'ils veulent en faire. Comme ce sont des mutants et chimères, ils n'ont pas le même droit que les humains et l'on peut en faire ce que l'on veut. Ils sont considérés dans la législation comme des machines humaines sans... comme une voiture, donc aucun interdit avec eux. Les jours passent. Riquin, après l'histoire de sa fille, n'a goût à rien. Il vit seul dans ses souvenirs. Sa tristesse ne lui donne que du dégoût. Et un matin, il va voir Danfort dans son bureau. Il dit à sa secrétaire, « J'aimerais voir Monsieur Danfort, s'il vous plaît. »«
Je vais voir Monsieur s'il peut vous recevoir. »
Elle fait le numéro.
« Allô, Monsieur Danfort, Monsieur Riquin aimerait vous voir. »«
Bien. »«
Vous pouvez entrer, monsieur. »
Riquin frappe à la porte qui s'ouvre. Il entre. L'enfant se lève de son bureau et lui dit « Venez, approchez. » Il s'approche. « Asseyez-vous. »
L'enfant lui demande « Alors, qu'avez-vous à me dire ?»
Riquin lui dit « Je crois que je vais vous donner ma démission. »
L'enfant lui dit « Mais que vous arrive-t-il? C'est impossible.
Ça ne m'intéresse plus tout ça. J'ai besoin d'autre chose. Je suis dégoûté de tout. Alors je laisse tout tomber. Vous trouverez bien quelqu'un pour me remplacer. »
L'enfant lui dit, vous vous remontez, vous remettre. Vous ne pouvez pas laisser tomber le groupe comme ça.
Riquin lui dit, je ne peux plus. C'est au bout de mes forces. Je ne peux plus m'occuper de tout ça.
L'enfant lui dit, vous devez être fatigué. Il faut vous reposer un peu. Prenez quelques jours de vacances.
Si je pars en vacances, je serai incapable de revenir. Ce serait trop dur. Au bout de mes forces.
L'enfant lui demande, mais que voulez-vous faire au juste?
Rien. Je ne veux plus rien faire. Je veux plus de responsabilité. Je veux vivre tranquille. » L'enfant lui dit, « C'est impossible. Tout le monde sur Terre a des choses à faire. On ne peut pas s'enfermer sur soi-même. Non, remettez-vous. »
J'en suis incapable. Non, j'aime mieux quitter le groupe. »
L'enfant lui dit, « C'est impossible. Vous devez mieux le savoir que n'importe qui. L'on ne peut pas quitter le groupe qui fait partie des sept soleils. Même mort, vous appartenez aux sept soleils. On ne peut démissionner. »
Mais moi, je le peux. Je ne suis plus bon à rien. Je suis un homme libre. Je veux démissionner. »
L'enfant lui dit, vous n'êtes pas un homme comme les autres. Votre rôle est plus important pour le monde, les hommes, que n'importe quel autre homme. Vous êtes au service de l'élu jusqu'à la fin des temps et même au-delà. Et l'on ne quitte pas l'élu.
Riquin lui dit, « C'est l'élu qui est la cause de tous mes malheurs. »
L'enfant lui dit, « Ce que vous appelez vos malheurs est le bien de la cause universelle. L'élu vous a sorti du péché de l'inceste et vous l'en blâmez. »
Riquin lui dit, « Il m'a enlevé à jamais ma fille.
Pour votre bien et le sien. Alors restez. Promis. Mais comme vous l'avez toujours été, vous ne pouvez pas nous quitter. Nous serons toujours près de vous. Alors, soyons près de vous parce que vous le souhaitez. »
Riquin lui dit, « J'en ai pas envie. Et puis, vous n'avez plus besoin de moi. Tout marche très bien. »
L'enfant lui dit, « Ce n'est que le début de votre œuvre. De notre œuvre. Vous ne pouvez pas nous laisser en plein chantier alors que la dernière étape va se faire. Nous avons bientôt fini le bateau et le continent. Aussi, ensuite, nous allons mettre en route l'étape finale, celle qui mènera à l'absolu. L'ADN a été maîtrisé. La nature, tout ce qui vit, nous allons aller plus loin. Et ceux qui nous suivront, vivront. Les autres, au fil des temps, ne deviendront que de vieux souvenirs. » Vous devez rester, votre travail n'est pas fini. C'est un ordre. »
Riquin lui dit, pour le groupe, pour le monde, pour le but, mais moi, ma vie, je n'ai rien, je ne suis rien.
L'enfant lui dit, mais vous, vous êtes le groupe, chacun a en soi le groupe. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous êtes le groupe. Alors, restez.
Si je reste, j'aurai pas de vie privée, pas de joie. »
L'enfant lui dit, votre vie privée, si vous voulez des petites filles ou chevaucher un cheval, faites-le, vous en aurez. La vie privée, ce n'est rien, juste le temps de se reposer. Mais la vie professionnelle, c'est autre chose. Elle vous permet de voir des gens exceptionnels, de faire des choses fantastiques. Votre travail vous permet de créer, de jouer comme un enfant. L'enfant joue. Bien au travail, nous, nous travaillons pour jouer, pour de vrai. Mais c'est la même chose. Allez, continuez à jouer avec nous, avec le monde, l'univers, tout ce qui vit. »
Riquin lui dit, bien, parce que c'est comme ça, je ne donne pas ma démission. »
L'enfant lui dit, pour continuer à aider l'élu et à nous aider à étendre, à atteindre notre but. Mais un conseil, trouvez quelque chose de révolutionnaire. Cela vous changera les idées.
Ériquin se lance dans son travail pour oublier. Il trouve des bactéries qui font de l'or à volonté. Et c'est l'effondrement du prix de l'or de l'étalon. Parce que l'on peut le mettre dans tout, même dans les tuyaux d'évacuation d'eau. Pour ce qui est de la monnaie, cela n'a pas de il n'y a pas de danger, car la carte à puce pour payer sont de l'argent virtuel qui veut ce que veut la carte, ce que vaut la carte, c'est-à-dire le groupe Genetou. Et les jours passent.
Christine Colomb a rangé sa BMW rouge devant l'entrée de sa maison. C'est une grande maison du 19e, de 3 étages, très cossue. Elle sort de voiture. Elle est grande, mince, blonde, visage fin, très élégante. Quand je dis élégante, cela veut dire tout. Le maintien aussi. Elle a un manteau gris, sur une robe rouge. Il est 22h et les domestiques sont absents. C'est leur jour de congé.
Elle ouvre la maison. Éclaire et monte à l'étage pour aller au salon. Prendre un verre avant d'aller se coucher. La maison est meublée Louis-Philippe. Elle ouvre la porte du salon. Éclair. Albert.
Un homme debout face à elle. Cheveux, petite moustache, satin, costume marine.
Mais que fais-tu dans le noir ?
Je t'attendais. Elle lui dit.
Dans le noir ? Mais pourquoi ?
Il lui dit. Je sais d'où tu viens. Elle rougit. Il lui dit. Ça fait des mois que tu me trompes. J'en ai assez.
Mais je t'assure.
Non, ne dis rien. Tu vas me mentir. Cela ne sert à rien.
Il se met à marcher, va vers elle, la prend par la main et lui dit « Viens t'asseoir. » Il la fait asseoir sur une chaise et lui reste debout et lui dit « J'ai bien réfléchi. Je te comprends. Tu es une petite femme délicate, comme on n'en fait plus, et la vie que je te mène, fait mener,
ne te convient pas. C'est normal.
Elle lui dit, mais Albert, je t'assure.
Il lui dit, non, fais-moi plaisir. Ne me dis pas que tu es heureuse. N'est-ce pas? Oh, je sais que tu es si gentille et que tu veux pas me faire de la peine en me disant que tu es malheureuse avec moi.
Mais Albert,
mais ne dis pas le contraire. La preuve, c'est que tu as un amant. Et ne me dis pas que tu as un amant parce que tu es heureuse.
Elle lui dit, mais je ne suis pas malheureuse.
Alors pourquoi? Elle hausse les épaules, lui dit,
je crois que c'est parce que je m'ennuie un peu, tout simplement.
Il lui dit, c'est bien ce que je pensais. Tu es malheureuse.
Mais on peut s'ennuyer sans être malheureuse.
Non, impossible. J'ai bien réfléchi, tu sais. Puisque je t'aime et veux ton bonheur, j'ai décidé de te donner ta liberté. Nous allons divorcer.
Elle lui dit, mais je ne veux pas, mon chéri. Je t'aime.
Tu m'aimes? Mais tu vas te consoler dans les bras de Georges Roger depuis 6 mois.
Elle lui dit, je ne le reverrai plus, je te le jure.
Oh, surtout pas. Celui-là, je le connais. Je sais où tu vas, avec qui tu vas. Mais si tu ne le vois plus, tu en auras un autre. Et que je ne connaîtrai pas. Et je serai obligé de faire des recherches. C'est long, ça coûte cher. Alors, autant garder celui-là. Et puis, de toute façon, nous allons divorcer. Quelle importance! Tu es habitué à lui, alors garde-le.
Elle lui dit, mais je ne veux pas divorcer, Albert. Je refuse de divorcer.
Elle se lève et lui dit, pourquoi? Tu seras libre et heureuse.
Elle lui dit, mais mon chéri, je suis heureuse avec toi et je veux ton bonheur. Sans toi, je serai malheureuse. Je t'aime, je t'aime, je n'aime que toi, je te le jure.
Il la serre dans ses bras et lui dit, regardez-moi ses yeux, ses jolis yeux. Sont-ils capables de mentir, ces jolis yeux?
Elle lui dit, mes yeux ne te disent pas que je t'aime.
Il lui dit, ils me disent aussi autre chose.
Et quoi donc?
Que tu es gourmande, que tu aimes le luxe, que tu apportes la pauvreté, et que c'est pour ça que tu veux pas divorcer.
Elle se dégage et lui dit, tu es un mufle.
Oui, comme un mari trompé et qui veut divorcer.
Elle lui dit, mais tu me dis que tu m'aimes et tu veux divorcer.
Oui, parce que je ne veux pas jouer le rôle du mari, on comprend, qui empêche sa femme de voir son amant.
Elle lui dit, mais je te jure que je t'aime, que je ne le reverrai plus.
Alors, pourquoi m'as-tu trompé?
Elle hausse les épaules et lui dit, comme ça.
Il lui dit, eh on, oui, comme ça. Parce que ça se fait, une femme du monde le fait, n'est-ce pas?
Elle lui dit, que tu es bête.
Il lui dit, pourquoi? Parce que ça se fait qu'une femme du monde trompe son mari. Ça se fait aussi qu'un homme du monde divorce de sa femme infidèle. Tu me diras, c'est qu'il peut lui aussi prendre une maîtresse. Mais dans cette quadrille, je n'ai jamais su faire. Et ce n'est pas à mon âge qu'on en apprend ces choses. Et puis, à 3, c'est déjà assez compliqué comme ça. Alors je préfère être seul. C'est pour cela que je te dis que je vais faire les formalités pour divorcer.
Elle lui dit, je refuserai.
Il lui dit, tu ne peux pas grand-chose. Le détective sera là comme témoin. Et tu es en tort. Je n'aurai même pas une pension à te donner.
Elle lui dit, tu ne m'as jamais aimé.
Il lui dit, c'est toujours les femmes qui trompent leur mari qui disent, tu ne m'as jamais aimé. Et toi, tu m'as aimé?
Moi, oui, je t'ai aimé.
et je t'ai resté fidèle. » Il regarde sa montre et lui dit: « Il se fait tard. Allons nous coucher. Chacun dans notre chambre. »
Elle lui dit:
« Mais... »
« Non. Ma décision est prise. Allons. »
Et il sort du salon.
« Oh, le mufle ! Il me le payera !»
Elle se sert un verre de cognac.
Le mufle, le mufle.
Et sort de la pièce.
Durant toute la nuit, elle se dit qu'elle va être à la rue, sans argent. Elle ne pense même pas que son amant pourrait la prendre avec lui. Non. Ou qu'elle sait qu'il ne l'aime pas assez. Mais...
Demain après-midi, Christine est dans la chambre de Georges Roger, son amant. Chambre transformée en garçonnière pour un gigolo. La pièce est grande, il y a un grand lit à deux places, bien entendu, un paravent chinois, une table basse pour prendre le thé après l'amour, une armoire, deux fauteuils, des coussins multicolores de partout, même à terre. Ils sont tous deux enlacés sur le lit. Il est contre elle, habillé d'une robe de chambre en soie noire. Elle a sa robe de chambre beige et fleurs rouges. Elle lui dit: « S'il demande le divorce, je suis ruinée. » Il lui dit: « Ce serait très regrettable. » Elle lui dit: « Tu ne pourrais pas, toi ? » ?»«
Moi ? » Tu sais très bien que je ne peux pas. Je ne peux pas t'entretenir. Je ne peux même pas pour ma mère. C'est ma mère qui paye tout ça. »
Elle lui dit: « Alors, qu'allons-nous faire ?»
Il lui dit: « Ma foi. »
Elle lui dit: « J'ai une idée complètement idiote. Je ne devrais peut-être pas te la dire. »
Il lui dit: « Dis tout de même, ça peut être drôle. »
Elle lui dit: « Drôle, ça oui, et peut-être même un peu macabre. Je me disais que si l'on aidait le destin pour que mon pauvre mari aille dans l'autre monde, ça nous arrangerait bien. » Pour fêter ça, je te donnerais la moitié de sa fortune. » Ce qui nous permettrait de vivre ensemble et de voir venir. »
Georges lui dit: « Ton idée n'est pas si mauvaise que ça. Mets-la à exécution. »
Elle lui dit: « C'est-à-dire que moi, je suis une femme et je n'ai aucune idée. Et toi ? » ?»«
Moi ? » Il hausse les épaules. « On pourrait peut-être trouver quelque chose de très simple. Voyons. »
Une semaine plus tard, Christine demande à son mari: «
Christine demande à son mari.
Tu pars bien lundi matin pour Bordeaux.
Pourquoi me demandes-tu ça? Tu sais très bien que je te laisse libre de faire ce que tu veux, alors partir ou non. Mais oui, je pars.
Elle lui dit.
Bien, très bien. Simplement pour savoir.
Albert a sorti la voiture de son garage et pris les routes. Il fait beau, doux, les routes sont presque vides. Ne répond plus. Elle n'a plus de frein. Elle ne peut plus être guidée. Albert panique, ne sait que faire. La voiture file, file, file. Tournant, elle vient de se plaquer dans un mur.